Europe 1 soir.
Europe 1, 18h40, l'heure de l'interview politique avec vous, Arlette Chabot.
Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
C'est la question du jour. Où Mohamed Merah doit-il être inhumé? L'Algérie refuse que ce soit sur le sol algérien. Aujourd'hui, la ville de Toulouse n'en veut pas non plus. C'est une vraie question?
C'est pas une question politique. Voilà, c'est pas une question politique et je crois pas que ce soit la question que se posent aujourd'hui les millions de travailleurs aujourd'hui. Écoutez, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Mohamed Merah est mort, et bien mort.
Oui, mais il a droit à une sépulture en France parce qu'il est français. On doit régler le problème très vite et c'est tout selon vous. On ne doit pas entendre
les victimes. Mais bien sûr. Écoutez, ça va durer encore longtemps. Hein, les gens là vont tirer sur la corde pendant combien de temps? J'ai entendu effectivement Marine Le Pen.
Et les victimes qui s'expriment aussi aujourd'hui, les familles des victimes qui disent par exemple qu'elles ne veulent pas qu'ils soient inhumés près de l'endroit où les membres de leur famille ont été tués, ou leurs amis ou leurs proches ont été assassinés.
On peut les entendre et je pense qu'il faut effectivement trouver une solution. Mais ce n'est pas, encore une fois, une question politique.
C'est la raison pour laquelle vous êtes restée, j'allais dire, très absente de toute cette séquence qui est un drame qui a touché quand même tous les Français, Montauban, Toulouse.
Oui, écoutez, moi j'ai refusé toute instrumentalisation politique. C'était effectivement un drame qui a stupéfait et meurtri. Je crois tout un chacun, tout être normalement constitué, et il n'y avait pas à en rajouter, et en tout cas à s'en servir politiquement dans un sens ou dans un autre.
Il n'y a aucune leçon à tirer de cette histoire du parcours d'un jeune délinquant qui glisse vers le terroriste? Il y a des questions à se poser sur le terrorisme, sur l'intégration? Vous vous en posez ou pas du tout?
Sûrement pas. La façon dont les questions sont posées aujourd'hui, hein, quand on nous explique qu'à partir de ces tueries de Montauban et de Toulouse, il y aurait à nouveau un danger salafiste en France, qu'il y a des réseau, qu'il faut traquer, que finalement il faut se mettre à vivre comme si on était dans un camp retranché. Là, franchement, c'est vraiment créer de façon complètement artificielle une psychose qui n'a pas lieu d'être.
Selon vous, il n'y a pas de questions à se poser quand même sur les dérives de ce type de garçon?
On peut se poser toutes les questions qu'on veut. Hein. La société, elle est violente, et à partir du moment où il y a des guerres, ou des dévastations aux quatre coins du monde, où il y a des injustices, des inégalités, eh bien forcément ça... vous savez, la société, elle est barbare, hein, par plein d'aspects. La barbarie des uns nourrit aussi la barbarie des autres, et ça, oui, régulièrement, eh bien, ça peut rejaillir, y compris ici. La France, elle n'est pas étrangère aux guerres, elle n'est pas étrangère aux pillages, elle n'est pas étrangère aux dévastations, alors que elle alimente des haines qui ensuite sont utilisées par les uns ou par les autres. Bien sûr que ça peut arriver.
Oui.
Et justement, si nous combattons cette société d'oppression, c'est bien pour cette raison-là.
Vous pensez que la sécurité n'est pas un sujet d'inquiétude pour les Français?
Je crois qu'aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui se lèvent avec la peur au ventre, c'est avec la peur de pas trouver un boulot. C'est avec la peur de pas pouvoir remplir leur frigo, de pas pouvoir payer leurs factures, de plus pouvoir payer les études de leurs enfants. C'est cette peur-là. C'est cette peur de pas pouvoir se faire soigner, de pas joindre les deux bouts. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les salaires ne suffisent plus, parce que le chômage a explosé, que toutes les familles sont frappées aujourd'hui par le chômage. Et quand on se retrouve au chômage, on est condamné à la misère et à la pauvreté. Et c'est ça, je crois, aujourd'hui, le premier sentiment d'angoisse qui existe effectivement dans la population.
Alors vous faites bien sûr le tour des médias en ce moment, c'est la campagne, c'est normal, on vous entend, et il y a un reproche qui vous est fait sans arrêt, c'est de dire au fond, vous n'avez pas de programme, vous êtes là pour témoigner, pour dénoncer, comme vous le faites en ce moment, un certain nombre de situations, mais vous n'avez rien à proposer.
Mais c'est trompé, hein. Non, je ne dis pas ça, non, j'ai un programme, le programme, c'est l'interdiction des licenciements. Voilà.
D'ailleurs, je suis la seule.
Non, l'interdiction des licenciements, mais c'est pas mince quand même. Excusez-moi, mais ça fait quand même des décennies que les gouvernements succèdent de gauche, de droite, et qu'ils n'arrivent pas à stopper le chômage. Alors c'est pas, si vous voulez, un détail. Dire interdiction des licenciements, c'est une mesure qui est urgente et qui est vitale aujourd'hui pour des milliers de travailleurs. Vous savez, il y a entre 800 et 1000 travailleurs qui sont mis au chômage tous les jours dans le pays. Alors c'est pas une petite mesure comme ça en passant. L'interdiction des licenciements, c'est une mesure de survie pour aujourd'hui aujourd'hui des millions de travailleurs. Donc interdiction des licenciements, l'embauche, oui, dans les services publics, dans les écoles, dans les hôpitaux. Le SMIC aussi à 1700 euros. Et surtout cette mesure, et cette, ce qui est en fait une revendication, mais j'y reviendrai justement, cette mesure que les salaires, les pensions de retraite, les allocations doivent suivre les prix, doivent être indexés sur les prix, parce que c'est insupportable de voir que tous les prix augmentent, sauf effectivement eh bien, les revenus des travailleurs. Et c'est comme ça qu'on est aussi appauvri et poussé vers la misère. Donc si, des mesures, j'en ai, mais effectivement, ce sont avant tout des objectifs et des revendications pour les luttes. Voilà, ouais. Et c'est ça ma caractéristique.
C'est vous mobiliser, c'est organiser des luttes contre le pouvoir, quel qu'il soit demain, qu'il soit de gauche ou de droite.
Non, ce n'est pas cela. C'est ne pas mentir aux travailleurs, ne pas les bercer de promesses en l'air. C'est leur dire que effectivement, pour obtenir des augmentations de salaire, pour obtenir des embauches, pour obtenir que ces grands groupes, au lieu de mettre à la porte les travailleurs, répartissent le travail entre tous, eh bien, il va falloir se battre. Il faudra des mobilisations. Aucun gouvernement ne le donnera. Toutes ces mesures-là qui sont pour nous nécessaires, indispensables, urgentes, il va falloir aller les arracher par des mobilisations, par des grèves. Donc, effectivement, moi, je me présente dans cette élection pour mettre en avant un programme pour les luttes. Les luttes, on n'y coupera pas. On n'y coupera pas. Parce que ce soit Hollande ou Sarkozy élu, eh bien, la crise, elle va continuer et on va retrouver le même patronat qui en veut toujours plus et qui le fait payer aux travailleurs.
Alors, on peut comprendre que vous soyez opposé, vous n'êtes pas la seule, au licenciement boursier, c'est-à-dire pour des entreprises qui font des bénéfices, qui licencient leurs salariés ou qui ferment une entreprise en France pour aller ouvrir une usine ailleurs. Mais quand les boîtes font faillite, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas les obliger à payer les gens à rien faire?
Eh bien, moi, je pense que si, il faudrait les obliger.
Mais c'est l'Union soviétique, on fabriquait rien et on passait 7 heures par jour.
Eh bien oui, mais au moins les gens vivaient. Au moins les gens vivaient. Les gens avaient un toit. Les gens pouvaient se soigner, vous voyez. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans la cinquième puissance économique du monde et on nous dit que ça, on peut plus le garantir aux travailleurs. Donc là, il y a un vrai problème. Donc oui, moi, je suis pour qu'on garantisse les emplois et les salaires et qu'on arrête de garantir les dividendes et les profits de quelques-uns. Parce que c'est ça qui se passe. Et il faut que ce sont des grands groupes qui sont les premiers fabricants de chômeurs, les Petroplus, les ArcelorMittal, les Peugeot, Citroën, les Renault.
Il y a des
Renault,
PME en France aussi, Nathalie Arthaud.
Et ces PME qui souvent dépendent des grands groupes, eh bien, il faut aussi qu'on préserve l'emploi dans ces PME et qu'on aille chercher.
Il faut les aider dans ce cas-là.
Et oui, mais qu'on aille prendre l'argent dans les donneurs d'ordre, dans ceux qui compriment leurs marges, dans ceux qui profitent de ces PME, dans les banques aussi. Voilà. Et il faut préserver les emplois de chacun. Encore une fois, tomber dans le chômage, c'est être condamné. Aujourd'hui, condamné à la misère et ça va très très vite. Ça va très vite, ça n'attend pas. Hein. C'est les coupures de téléphone, les coupures d'électricité, c'est les impayés, c'est les banques qu'on a sur le dos. Donc c'est une urgence. Moi, je vois pas pourquoi on a réussi à trouver d'abord des milliards pour sauver les banquiers. Ils en étaient quand même pas jetés du 10e étage. Eh bien, on les a trouvés, ces milliards. Eh bien, il faut trouver effectivement l'argent. Mais l'argent, c'est facile à trouver. Hein. Il est dans ces grands.
On n'a pas l'impression, parce que dans un pays endetté, dans une Europe qui va très mal, on se dit c'est pas facile de trouver de l'argent.
Eh ben oui, mais écoutez, tout ça, c'est du chantage. C'est du chantage. Vous savez, le PDG de Publicis, il a trouvé ses 16 millions de bonus. Hein. Et tous ces grands dirigeants qui orchestrent les fermetures de sites, ils trouvent de quoi se payer 200, 300 fois le SMIC. Ils trouvent même de quoi verser des dizaines de millions de dividendes à leurs actionnaires. Alors pourquoi trouvent-ils l'argent pour cela? Et pourquoi ne trouvent-ils pas l'argent pour préserver l'emploi et le salaire des travailleurs qui ont fait leur fortune? Et je vais vous dire, vous savez, en réalité, ça dégouline hein, de milliards à un pôle de la société. Excusez-moi, mais quand on entend que les exilés fiscaux sur les années 2000, ça fait jusqu'à 600 milliards hein, d'argent qui auraient
Comment vous les faites revenir? Vous les faites pas revenir? Vous les taxez comment, les exilés?
Eh bien, il faut les contraindre, il faut les empêcher.
Comment vous faites pratiquement, concrètement?
Vous savez, Nicolas Sarkozy avait une bonne idée. Hein, il avait trouvé, lui, une solution. Donc, effectivement, moi, je suis pour les contraindre, tous ces gens-là, à remplir leurs devoirs, hein, leurs devoirs qu'on demande.
Même des choix de nationalité française s'ils ne payent pas leurs impôts en France.
Et bien, pourquoi pas? Bien sûr, vous savez, Sarkozy promet de le faire. Alors, vous voyez, moi, je ne peux pas faire moins. Hein, je ne peux pas promettre moins. Vous voyez, moi, je trouve ça vraiment scandaleux. On contraint, on impose, on force les travailleurs, les petites gens à payer. Eux, ils peuvent échapper à rien. Et les gros, on les contraindrait. Moi, je pense qu'il faut les contraindre jusqu'à les menacer d'être expropriés, effectivement, de leurs usines.
Alors, il y a un grand candidat maintenant, ou presque, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Vous le voyez piquer vos électeurs potentiels. Jean-Luc Mélenchon, vous lui dites chapeau, il est bon, Jean-Luc?
Jean-Luc Mélenchon, il arrive à enthousiasmer, effectivement, et à entraîner autour de sa candidature ceux qui, bien sûr, rejettent Sarkozy, et ceux aussi qui sont critiques vis-à-vis de Hollande, et qui sont méfiants vis-à-vis de Hollande, ça c'est vrai.
C'est blanc, bonnet, bonnet blanc?
Mais en même temps, Jean-Luc Mélenchon, c'est d'un certain côté un rival hein, vis-à-vis de Hollande, et en même temps, il est complémentaire. Il est complémentaire parce que, bon, bah d'abord, finalement, ça conduira à mettre en place un gouvernement de gauche, de la même façon, exactement la même perspective en fait hein, que celle dans laquelle est Hollande. Et nous disons que oui, le sort des travailleurs ne dépend pas de cela, ne dépend pas de l'avènement d'un nouveau gouvernement de gauche. Il faut pas croire que c'est un gouvernement qui donnera aux travailleurs des augmentations de salaire ou qui les protégera. Ça, c'est pas vrai.
Il fera pas peut-être mieux, mais vous préférez quand même un gouvernement de gauche, un gouvernement de droite. Vous préférez que ce soit François Hollande qui soit élu plutôt que Nicolas Sarkozy, ou finalement c'est pareil?
Vous savez, s'il y a quelque chose qui est très très particulier dans cette campagne, c'est que ça, elle se déroule dans un contexte de crise. Dans un contexte de crise très important, dont on ne sort pas et où on voit le patronat effectivement imposer des reculs qui sont extrêmement graves, extrêmement brutaux à la classe ouvrière. Et ça continuera le 6 mai. Donc nous pensons qu'y compris la situation peut s'aggraver, peut être pire, hein, si la crise continue et que les travailleurs en réalité se retrouveront tout seul, confronté au patronat, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre élu.
En 15 secondes, vous n'êtes pas allé au rendez-vous donné aux candidats par la FNSEA aujourd'hui. Ça veut dire que les agriculteurs ne vous intéressent pas?
Absolument pas. Et d'ailleurs, je me suis déjà adressée à eux, en particulier aux petits paysans,
c'est
aux petits agriculteurs. Bien sûr, c'est un problème d'emploi du temps, et je leur ai dit qu'en réalité, eh bien, j'étais tout à fait consciente qu'ils vivaient comme bien des travailleurs, des fois dans la difficulté même de se verser un SMIC, et qu'ils avaient des intérêts communs en réalité avec les travailleurs, parce qu'ils étaient eux aussi coincés hein, entre ceux qui achètent hein, la grande distribution évidemment, et puis les grands semenciers, et qui décidaient eux-mêmes pas de leurs revenus, et que finalement ils avaient tout lieu de se battre évidemment avec les travailleurs pour contrôler davantage cette économie.
Merci Nathalie Arthaud. Dans un instant, Nicolas Cantelou.